Donc, de manière brève, parce qu'on vous a promis de faire ce cours, bientôt, on va commencer finalement la première lettre de Jean. La première lettre de Jean, c'est un peu l'application de son évangile. Il faut se rappeler que l'apôtre Jean, y a-t-il un petit écho là, qui se fait? C'est pas trop, hein? L'apôtre Jean a écrit, c'est le dernier écrivain poussé par le Saint-Esprit. Il faut se rappeler une chose très importante aussi. Ces gars-là n'ont pas écrit leur opinion, leur compréhension personnelle. C'est le ministère particulier du Saint-Esprit, et puis même notre traduction qui dit « inspiré par le Seigneur », tu sais, dans 1 Timothée, chapitre 3,16. En réalité, c'est plus que « inspiré », c'est, je ne sais pas si ça existe en français, « spiré », « poussé ». C'est carrément le Saint-Esprit qui est derrière, finalement, le texte. Jean va écrire, parce qu'il y a un besoin que le Saint-Esprit réalise, il va écrire vers la fin de sa vie. L'Église, maintenant, est rendue à 2 ou 3 générations. Et le danger, finalement, qu'on peut avoir, c'est de, comment je pourrais vous dire, croire plus dans une institution qu'en Jésus-Christ. Tu sais, moi, j'ai connu des gens qui ont joint, tu sais, ça fait plus quasiment 43, 44 ans que je suis pasteur, tu sais, que j'ai commencé à faire l'évangélisation dans mon quartier quand je suis revenu. Et j'ai vu des gens venir nous joindre. Et j'aimerais juste qu'on se rappelle une vérité très importante. L'homme naturel peut se délivrer de certains esclavages. Vous comprenez? On peut se délivrer de certains péchés sans nécessairement avoir reçu le pardon. Par exemple, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec la drogue, l'alcool, la sexualité, ça peut devenir des addictions et ça peut carrément gâcher votre vie. Eh bien, il y a des institutions qui peuvent vous aider à vous en sortir. Mais parce que trop souvent, on dirait que quand les gens annoncent l'Évangile, on dirait qu'on annonce que la délivrance du péché. C'est pas ça seulement. Oui, le Seigneur peut nous aider et nous délivrer du péché, c'est sûr. Mais n'oubliez pas que l'homme naturel peut aussi se faire confiance pour se délivrer de certaines tendances qui gâchent sa vie. Par exemple, moi j'ai des amis, pas sûr du tout qu'ils soient des croyants, mais quand ils étaient jeunes, ils étaient esclaves de l'alcool, de la drogue. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont été chez les alcooliques anonymes ou bien la drogue, ainsi de suite, bien, ils s'en sont sortis. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils savent marcher avec Dieu. Le salut en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement se débarrasser de nos péchés, même si ça fait partie finalement de ce qu'il nous promet. Et c'est une chose que normalement, on devrait travailler à être affranchi de ce qui gouverne nos désirs. Parce qu'oubliez pas, votre raison fonctionne pour trouver des raisons à vos désirs. Et c'est pour ça que c'est important que le Saint-Esprit produise en nous des désirs contraires à ceux de la chair. Maintenant, le trésor de la vie chrétienne, d'après vous, c'est quoi? Je sais, vous avez peur du piège, là, que je vous tente. Le trésor de la vie chrétienne, c'est de marcher avec le Seigneur. Et ça, naturellement, nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur. Soyons très clairs. Vous pouvez faire de la religion, et c'est très dangereux. Parce que la religion, c'est comme un acteur qui apprend les règles du groupe pour jouer à ça. Mais si vous n'avez pas la vie, vous allez juste acter la vie. Et donc, c'est vraiment important pour nous ce que Jean va nous écrire. Il va nous montrer que la vie, elle est venue. Elle s'est manifestée au milieu de nous en s'incarnant, en devenant un être humain. La vie, c'est la deuxième personne de la Trinité. La parole de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et la vie était la lumière des hommes quand Dieu nous a créés. N'oubliez pas, il nous a créés vivants. Mais en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a perdu la vie et on est sombré, on est tombé dans les ténèbres. Et comment, d'après vous, Satan a tendu le piège à Ève? Est-ce que vous vous rappelez comment il a tendu le piège? C'est sûr qu'il a comme lancé le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Mais ça, c'est trop facile, celle-là. En réalité, la manière qu'a fait tomber la femme, et puis malheureusement, l'homme est à côté d'elle, puis il n'a rien dit. C'est comme s'il a fait de la femme son bouc émissaire en la laissant, elle, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et après, il en a mangé. Mais pour que la femme puisse désobéir au commandement du Seigneur, le malin fait la même chose avec nous ici. Il rôde pour voir comment il va détruire votre vie. Même si vous êtes en Jésus-Christ, il va chercher encore une fois, il rôde pour voir qui peut dévorer. Et la manière de le faire est simple. Il a provoqué la femme, c'est comme en disant, « Regarde, moi j'ai mon opinion. Moi je te dis que Dieu, il ne veut pas que tu manges de cet arbre parce qu'il pense que si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas être affranchi de Dieu, tu vas être capable d'avoir par tes propres raisonnements, tu n'auras plus besoin de dépendre de Dieu. Tu vas avoir l'autonomie, tu vas être comme Dieu. » Et la femme a tombé dans le piège en jugeant par elle-même, en regardant le fruit. Elle constate que le fruit n'a pas l'air si mauvais que ça. Elle juge. Elle a fait son propre jugement. Et je sais que dans notre société d'aujourd'hui, où on éduque nos enfants à compter sur eux, et c'est vraiment un défi pour les croyants d'aujourd'hui, est-ce que vous comptez sur la parole de Dieu? Où vous comptez sur votre propre capacité. Quand la raison prend le dessus au-dessus de la révélation, c'est une catastrophe. Et c'est le chemin des pharisiens. Et ils se prétendaient très religieux, mais ils n'avaient pas la vie. Même un très grand théologien de l'époque, qui était même un monsieur très gentil, monsieur Nicodème, il vient voir Jésus, qui est un jeune prédicateur qui vient du nord, finalement, d'Israël. Et il sait très bien que ce jeune prédicateur, eh bien, finalement, il veut lui donner, parce qu'il est une notoriété, il est une vedette théologique. Et tu sais, combien de fois on veut coller nos fesses à côté d'une vedette? Hein? En pensant que si... Tu sais, combien de fois... Je me rappelle, c'est une joke, mais en tout cas... Moi, je ne connais rien dans le hockey. Puis un jour, on était à Cartierville, et puis à un moment donné, il y a deux, trois gars qui viennent me voir. « Hey, il y a un des goalers, un des gardiens de but du Canadien qui est à l'église. » Moi, je ne connaissais pas le gars, pas en doute. Puis je dis, « Mais pourquoi vous êtes excité de même? »« Non, non, mais gars, hey, ça va être une publicité pour l'église. » Non, non. Non, 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 non. Alors regarde bien, même si le goaler est là, bien, tant mieux pour lui. Il a juste à croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Tu comprends? Je ne veux pas que les gens viennent pour croire au goaler. Parce qu'ils vont manger un poc dans le front. C'est Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas le védétariat. Ce n'est pas le show. Si on n'a pas mis notre confiance en Jésus-Christ seul, on va... descendre, quand on va mourir, on va descendre dans une nuit éternelle où Jésus définit ce lieu comme étant un lieu de pleurs, de grincements de dents. Et le Seigneur nous aime au point qu'il veut nous en délivrer de sa justice. Et c'est, s'il vous plaît, soyez pas des acteurs. Ça marche? Et puis même si une vedette vient au milieu de nous autres, pas grave, c'est un perdu comme vous, comme moi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ça le danger qu'on court tout le monde sans arrêt. On cherche des vedettes comme si la justice, la popularité vient à cause d'une personne qui a réussi. Est-ce que vous réalisez qu'on vit encore énormément sur la justice qui découle des œuvres? Et le Seigneur veut nous affranchir de ça. Et c'est pour ça que Jean va en parler énormément dans sa lettre. Il va nous montrer Comment je sais que j'ai la vie, que j'ai reçu Christ dans ma vie, que je marche dans la lumière? Eh bien, il va définir des choses bien simples en disant, bien, si tu dis que Dieu t'a aimé, inévitablement, il y a une réponse. Tu vas l'aimer. C'est sûr, c'est normal. Mais en même temps, fais attention parce que tu peux te faire accroire. Jean, il travaille énormément sur le danger de l'illusion. On peut se faire des illusions. Bien des gens peuvent s'imaginer Dieu comme ils le veulent. Quasiment pour en faire de Jésus un génie dans la bouteille qui va donner des vœux. Pas vrai? Donc, il va dire, si tu dis que vraiment tu aimes Dieu, tu peux vérifier si vraiment c'est vrai. Et comment? Il dit dans sa première lettre. Oui, si tu aimes ton frère dans le Seigneur, ta sœur, un amour propre, un amour de fidélité, ça, c'est la caractéristique de ceux qui ont vraiment la vie. Et si on a la vie, on marche dans sa lumière. Quelqu'un qui marche dans la lumière, il ne se cache pas. Il ne peut pas se cacher, il marche dans la lumière. Celui qui marche dans les ténèbres, c'est quelqu'un qui veut cacher sa vie et souvent présenter devant les autres une autre image, de faire à croire. Donc, Jean travaille énormément là-dessus. C'est comme une application de son évangile, parce qu'il va nous rappeler des vérités essentielles dans son évangile. Malgré les miracles incroyables que Jésus faisait, Jésus rappelle à ses disciples, « Je sais qui croit, et cette majorité de gens ne me croient pas. » Les gens cherchent, encore une fois, leur avantage. Ils ne cherchent pas, finalement, le vrai libérateur. C'est pour ça qu'il va commencer sa lettre en disant, « Ce qui était dès le commencement. » Vous avez remarqué, il n'a pas pris, finalement, il a dit, « Ce qui était. » Dès le commencement. Il n'a pas marqué « celui qui était depuis le commencement ». C'est pour ça qu'il veut présenter, au fond, celui qui s'est incarné. Avant d'en parler, il veut présenter qui il est. Il est la vie, la lumière. Il est finalement le Logos de Dieu, la raison de la création, le Créateur par lequel le Père a tout créé. Ce qu'il rappelle aussi dans... au chapitre 1 de son évangile, quand il commence ça, il nous rappelle finalement que, tu sais, et il va commencer à définir en disant, « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. » En d'autres mots, il dit, je vais vous parler, nous allons, parce que quand le « nous » ici, c'est lui et les autres apôtres. Ils vont parler comme des témoins. Et puis, il dit, ce n'est pas une vision qu'on a eue, là. On a vécu avec lui. Vous vous rappelez, même quand Jésus est ressuscité, Thomas avait beaucoup de difficultés à le croire, mais un jour, il est revenu, tu sais, la deuxième fois que Jésus est apparu. Parce que Thomas avait dit, même aux disciples, quand ils ont dit, non, on a vu le Seigneur, il est ressuscité. Non, il dit, moi, là, en d'autres mots, il craint que les gars ont une vision, une illusion. Thomas, et il va dire, à moins que je touche ses plaies. Et vous vous rappelez, quand Jésus est revenu une deuxième fois, Thomas était là, et Thomas, il panique un peu devant le Seigneur, il le voit, puis le Seigneur va dire, avance, mets ta main dans mon côté, le côté où la lance l'avait percé. Donc, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une vision. Et c'est pour ça que c'est des témoins qui vont nous parler. Et ils étaient prêts à ce que ça gâche leur vie parce que leur véritable espérance n'était plus maintenant ici. Ils ont compris selon les Écritures parce qu'ils vont nous dire ce qui était dès le commencement. Dès le commencement, Dieu nous a promis de nous sauver. Vous vous rappelez, après la chute, Dieu fait la promesse qui va envoyer le libérateur par la postérité de la femme. Il annonce l'Évangile en partant. Et Adam a cru parce qu'il a donné un nom à sa femme. Il l'a appelée Ève. En hébreu, c'est un dérivé finalement du mot « vie ». c'est la mère de tous les vivants. Et puis, ça l'a délivré de l'avoir fait comme un bouc émissaire. Parce que avant que Dieu fasse la promesse, Dieu voulait mettre la faute d'Adam en lumière. Et Adam s'est caché dans les ténèbres. Comment? En faisant de sa femme le bouc émissaire et en accusant même Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, il pointe sur Dieu et deuxièmement, il fait de elle la responsable. Faites attention de trouver des boucs émissaires dans vos vies. Assumez votre chute, vos péchés personnellement tout le temps. Ça marche? Parce qu'on est trop dans un monde que, tu sais, je ne sais pas moi, ils vont toujours vous expliquer pourquoi vous avez fait le mal. Oh, c'est à cause de tes parents, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. C'est bourré de boucs émissaires tout le temps. Si tu as fait quelque chose de mal, prends-le personnellement. J'ai fait quelque chose de mal. Peu importe ce qui était derrière les causes, ça l'a simplement révélé ce que tu es. Pas plus compliqué que ça. Et Jésus-Christ est venu sauver des perdus. Il n'est pas venu sauver des victimes. Il est venu sauver des gens perdus, des gens qui sont coupables. Et c'est pour ça qu'il est mort. Il a subi sa propre colère, de sa propre justice pour nous en délivrer. Dieu ne ferme pas ses yeux sur le mal qu'on a fait. Il nous a carrément mis dans la mort de Christ. C'est pour ça que le premier acte d'obéissance qu'un chrétien fait lorsqu'il se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir comme son sauveur, le Seigneur dit « baptisez-les ». En baptisant quelqu'un, on affirme « oui Seigneur, tu m'as mis dans la mort de Christ. Tu m'as tué. » Dieu nous délivre en nous tuant, en nous donnant la mort de Christ. C'est pour ça que quand on baptise quelqu'un, on prend l'image de mettre dans la mort de Christ. Et après ça, on le sort de l'eau pour dire « maintenant, tu es en nouveauté de vie. » Le Seigneur te ramène à la vie avec Christ. Un peu comme on a chanté, Mathieu nous va te chanter, c'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. On est ramené avec Christ à la vie. C'est lui dorénavant notre vie. Et notre véritable vie est cachée en lui. Et quand il va paraître, vous allez réellement voir ce que nous sommes en Jésus-Christ. Pour l'instant, on voit ce qu'on était. Hein? On voit encore finalement... Ce qui est né de la chair est chair. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance est fondamentale. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais pour l'instant, ce qui est né de l'esprit est caché en Christ. Et quand Christ paraîtra, on va vraiment paraître. Pour l'instant, faisons attention, parce que c'est comme si on a deux sources maintenant en nous. Il y a deux sources dans lesquelles vous pouvez vous confier pour essayer d'avoir de la confiance, pour avoir des victoires. La chair ou l'esprit. Et Jean va nous apprendre comment on apprend à marcher avec le Seigneur. Il y a seulement ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu, qui peuvent maintenant marcher avec le Seigneur en nouveauté de vie. Faites attention de penser que vous êtes sauvés simplement parce que vous avez été capable de vous délivrer de l'alcool, de vous délivrer, je ne sais pas moi, de l'obsession de la sexualité, de vous délivrer finalement du désir du pouvoir, de la drogue, de toutes sortes de péchés comme ça. N'oubliez pas, le monde est capable de s'affranchir, mais par des idoles. Et c'est pour ça que j'ai vu des gens, moi, venir à l'église. Ça fait plusieurs années que je suis pasteur. Et Jean va dire un peu plus loin, s'ils sont partis, c'est qu'ils n'étaient pas des nôtres. Je ne dis pas en passant quelqu'un qui décide d'aller dans une autre église, il n'y a pas de problème, on va prier pour lui. Seigneur te bénisse, si tu veux changer d'équipe, pas de problème, c'est ton choix. Mais quand je retrouve des gens qui, pendant des années, ont marché avec nous autres et qui, aujourd'hui, sont dans le monde et qui vivent comme le monde, mon grand fardeau, c'est est-ce qu'ils ont vraiment mis leur confiance en Christ ou ils ont juste joint le groupe, l'Église qu'on est pour trouver un milieu plus sain? Tu sais, parce que finalement, n'oubliez pas, bien de mes chums, quand ils sont convertis, hein? Un gars qui travaille à Bay James, hein? Eh bien, finalement, le Seigneur a délivré bien du monde de la drogue, pas vrai? De toutes sortes de vies tout croche. Parce que ça produisait un environnement beaucoup plus favorable Et moi, ce qui me fait peur, c'est que des gens, des fois, vont adhérer à une église parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de secours, et puis, pas de problème, on va vous aider. Mais faites attention. Si votre espérance est dans l'église, bon, ben, c'est vous quoi? Il y a des organismes dans le monde qui sont plus efficaces que nous autres. Si vous avez un gros problème d'alcool, venez pas à l'église. Allez chez les alcooliques anonymes. Si vous avez un gros problème de drogue, venez pas à l'église pour que l'église va vous délivrer. Allez chez, comment ça s'appelle, les narcotiques anonymes. Et puis, il y a toutes sortes d'organismes qui essaient d'essayer de trouver comment dans la chair, dans notre capacité naturelle, on peut se délivrer de certaines choses. Donc, c'est vraiment important pour nous. C'est important. Ça ne veut pas dire qu'on... Moi, je ne suis pas contre ces organismes-là du tout. Souvent, ils sont peut-être mieux équipés que nous autres pour vous aider. Tu sais? Pas vrai? Je sais pas, moi, quand je suis malade, je vais voir mon ami, le docteur. Je n'ai pas besoin de venir à l'église, tu sais, puis vomir devant tout le monde, tu sais. Il va vomir dans son bureau à la place. Mais il est capable de soulager ma vie, il est capable de m'aider à mieux vivre, mais il ne va jamais dire, écoute, j'ai une pilule qui va te donner la vie éternelle. Vous comprenez? On peut s'aider les uns les autres dans la chair, dans le projet qu'on marche. Mais encore une fois, mon plus grand fardeau, est-ce que vous avez vraiment mis votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ? Et deuxièmement, de lui demander, apprends-moi à marcher avec toi. C'est comme ça que je vais savoir si j'ai vraiment cru en toi ou si j'ai cru dans mes capacités naturelles. Jean va travailler énormément là-dessus. Parce que s'il y en a un, c'était le plus jeune de tout le groupe des 12. Et puis en plus, on dirait que le groupe dont Jésus aussi, vu que c'était le plus jeune, il était peut-être fin de son adolescence, je ne sais pas. Il aimait Jésus, tu sais. Il aimait ça le regarder. Il était fasciné par Jésus. C'est quand même intéressant. Puis il était sûrement fasciné par les autres. Vous vous rappelez quand Jésus est ressuscité, puis ils ont entendu la nouvelle, Jean et Pierre sont partis. Mais Jean était plus en forme que Pierre. Il a couru plus vite. Il est arrivé à la tombe avant Pierre. Mais Jean, je trouve que c'est quelqu'un en plus que le Seigneur a permis, qui a vécu plus longtemps que toutes les autres, parce que quand il a écrit, tous ses frères et sœurs dans le Seigneur étaient tous morts. Ils ont tous été même massacrés par le monde. Par contre, le Seigneur veut préserver sa vie à lui, même s'il a été persécuté, et puis ainsi de suite, il était à Patmos, ainsi de suite. Tu sais. Et puis, là, il va écrire surtout pour fortifier les églises en Asie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui en Turquie. Paul avait travaillé là, il a déménagé là. Et puis, il va leur parler en disant, « Attention, faites attention, joignez pas un groupe favorable juste pour vous aider humainement. » La seule porte pour entrer dans la véritable maison de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que le corps, c'est Christ et il est la teinte du corps. Donc, quelqu'un peut entrer ici sans être né de nouveau et vivre avec nous autres pendant des années, jusqu'à temps qu'une petite chicane arrive, puis « Ah, oh, là, je vous aime plus. Je vais trouver une église où il y a du monde plus le fun. » Bien, si vous trouvez du monde toujours plus le fun, bien, en réalité, ce n'est pas en Christ que vous avez cru. Bien, je vais vous dire où est-ce que le goaler des Canadiens est parti. Vous irez le voir, c'est d'autres, OK? Parce que moi, je suis concerné par le Seigneur. Nous, les anciens, on va rendre compte au Seigneur comment on s'est occupé de vous autres. Et puis, moi, je suis content, tu sais, c'est le fun en vieillissant, là. Avez-vous remarqué, les vieux, nous autres, les vieux, là? Avez-vous remarqué comment le temps passe vite? L'été, il va déjà finir bien vite. On sent les râteaux bien vite. Puis l'appel. C'est le fun. Écoute, dans pas grand temps, on va aller souper au ciel. Pas le fun, ça? Quand le Seigneur va nous accueillir, on s'en va au festin de l'agneau. Ça va être fascinant. Donc, je sais, selon les Écritures, dans Hébreux chapitre 13, il nous est rappelé une chose, c'est pour ça que je vous ai demandé, priez pour nous, s'il vous plaît, nous autres les anciens. Parce qu'on a une tâche à qui Dieu donne plus de responsabilités. Oui, il va nous soutenir, mais il va nous en demander plus. Et nous autres, il va falloir rendre compte de tous les gens que le Seigneur a amenés à l'Église. Et c'est pour ça que régulièrement, il faut toujours rappeler, vous avez cru en quoi? Faites attention. Est-ce que c'est en Jésus-Christ seul que vous avez cru? Est-ce que quand vous venez à l'Église, c'est pour vraiment réaliser que Christ est au milieu de nous? Développez ça, c'est important. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup plus de respect et d'amour pour l'Église, parce que quand le Seigneur se manifeste au milieu de nous par les frères et sœurs, là, qui ne s'en rendent même pas compte, c'est ça qui est fascinant. Dieu peut se servir d'un frère ou d'une sœur pour vous montrer qu'il est là. Pas vrai? Donc, on n'a pas besoin de toujours regarder les gens. C'est arrivé souvent là, dans l'Église, même des fois dans les messages. Tu sais, je racontais souvent cette histoire-là, elle était sympathique et drôle. Un gars qui critiquait dans sa voiture en s'emmenant avec sa femme. « Oh, je suis tanné, on était en Quartierville à l'époque. je suis tanné dans cette église-là. T'sais, parce que le local, là, c'est pas un beau local. En plus, c'est au premier étage, puis il y a plein de colonnes. C'est plate, là. Je suis tanné d'être là. » Puis moi, je commence le message en disant, « En passant, ceux qui n'aiment pas les colonnes, là, tiens. » Puis je commence à décrire le gars, je ne savais même pas, je n'étais pas au courant. Il capote bien raide, il vient me voir après le message. « Hey, ma femme, t'as-tu parlé? » « Non, elle ne m'a pas parlé. Pourquoi? »« Ben, je te demande pardon, j'ai critiqué les colonnes, j'ai critiqué le local. » »« Bon, ben, demande pardon au Seigneur, parce que moi, je ne suis même pas au courant, tu sais. » C'est le Seigneur qui nous a amenés ici. Quand il va être tanné d'être ici, il va nous amener ailleurs. Regardez où ce qu'il nous a amenés. Certains, peut-être, sont venus à matin en disant, « Ah, oh, je suis tanné d'aller à cette église-là. L'été, il fait trop chaud. » C'est trippant marcher avec le Seigneur. Parce que je vous le dis, c'est comme ça qu'il nous rassure, qu'il est vraiment en train de nous apprendre à marcher avec lui. Paul le dit, c'est pas moi qui vis, comme il l'a fait chanter, c'est Christ qui vit en nous. Mais il faut développer cette vie-là. Donc, Jean va nous en parler. Fait que je vous conseille de lire la première lettre de Jean et aussi avec son évangile. Ça marche? Lisez ça, vous allez voir la cohérence incroyable et Jean va surtout dans sa première lettre montrer comment on applique ça, comment on vit ça. Vu qu'on a dit qu'il faisait chaud, qu'on va faire ce tour, on va arrêter là. Merci d'être venu malgré la chaleur pour rencontrer le Seigneur. Tu te rappelles-tu comment il s'appelait le joueur de hockey? Monsieur Roussel? Ah, il jouait à Philadelphie? Ça même pas les Canadiens? Si jamais Céline Dion vient et elle vient chanter avec vous autres, les chantes, là. Pas grave, on chante devant le Seigneur, OK? Oh, ben. Écoute, Seigneur, encore une fois, ma supplication devant toi, c'est juste toi, Saint-Esprit de Dieu, qui peut le faire, de glorifier Jésus-Christ au milieu de nous. Car plus on va connaître le Seigneur Jésus, par toi, Saint-Esprit de Dieu, au moyen des Écritures, et marcher avec toi, bien, c'est Jésus nous a dit que plus on va le connaître, plus on va connaître le Père. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous révèle, qui nous manifeste le Père, celui qui nous a tant aimés et qui nous délivre de la colère qui s'en vient sur le monde. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, bénis-nous, apprends-nous à marcher avec toi, rassure-nous, afin que la journée que tu vas venir nous chercher, eh bien, ça va être une belle journée. On n'est pas suicidaire, mais on s'en va chez quelqu'un qui nous aime. Et c'est quelqu'un qui nous aime qui s'en vient nous chercher. Merci énormément. Puis surtout, pendant qu'on est vivant, pendant que tu nous accordes la vie, Seigneur, fais de nous des témoins. Tu nous as dit dans ta parole qu'on est le sel de la terre. Ce n'est pas qu'on a du sel en nous, là. On est le sel, on est le signe que tu as fait alliance avec le monde. Et deuxièmement, tu nous rappelles aussi, vous êtes des enfants de lumière. Bien, si on brille de ta lumière, c'est que tu réfléchis sur nous. On ne produit pas la lumière par nous-mêmes. Seigneur, s'il vous plaît, délivre-nous de s'attendre à nous-mêmes, de se glorifier dans nos œuvres et de continuer à chercher de plus en plus ta volonté pour marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Et c'est fascinant marcher là-dedans. Tu nous as fait vivre depuis plus de 40 ans toutes sortes de choses incroyables. Et c'est pour ça qu'on peut parler de toi avec enthousiasme, Seigneur. Merci de veiller à ce que tout le monde ici soit né de toi, Saint-Esprit de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair. On est tous nés de la chair, c'est pour ça qu'on est là. Et deuxièmement, pour faire partie du royaume de Dieu, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci de glorifier Jésus-Christ par lequel tu nous donnes la nouvelle naissance. Et puisque c'est un don gratuit, tu le dis dans ta parole, demandez et vous recevrez. Seigneur, que personne ne se prive de te demander d'être sauvé et de recevoir la vie éternelle et Saint-Esprit de Dieu, de venir habiter tous les croyants et de nous montrer ensemble, collectivement, ta volonté. Merci, Père. Et merci pour le lieu, même s'il fait chaud. Amen. Dieu vous bénisse.